la possibilité de la marche comme posture artistique. Il y avait, je me rappelle, on commençait par le Moyen Âge et le troubadour. Le troubadour qui est l'héritier d'Homère, hein, c'est une des origines de la littérature, c'est ce promeneur racontant, et c'est ce promeneur racontant dont on va écrire plus tard les histoires et qui seront la littérature. Et je viens de Bordeaux et adolescent, on m'avait raconté cette histoire-là qui était que l'amour n'existe pas. L'amour, ce que nous on vit comme l'amour, le cœur rouge comme ça, là, qui bat pour l'autre, était une invention poétique du Moyen Âge qui arrive autour de la Méditerranée dans plusieurs endroits à cause de ces poètes marchands. Donc de Bordeaux, il y avait un poète qui s'appelait Geoffrey Rudel, qui était un vrai troubadour, donc déclamant dans la rue des textes pour arriver à gagner de l'argent, enfin sa position sociale, etc. Et qui, pour gagner plus d'argent, invente une histoire qui marche. Il invente qu'il est amoureux d'une princesse tunisienne qu'il n'a jamais vue, dont il a juste entendu parler. Et donc il va de ville en ville en racontant qu'il est amoureux, qu'il aime quelqu'un. Les gens découvrent cette notion qu'ils ne connaissaient pas, qui était la passion ardente, comme ça, là, et gagnent sa vie comme ça. Et en parallèle, il y a les Mille et Une Nuits. Donc je ne sais pas, les Mille et Une Nuits, c'est plutôt au Moyen-Orient, à peu près à la même période. Et les Mille et Une Nuits, c'est aussi ça, c'est l'histoire de l'invention de l'amour pour pouvoir captiver l'auditoire et pouvoir s'enfuir finalement, pouvoir continuer de marcher. Je passais vite jusque au début du 19e, après l'Empire, il y a une croissance économique qui revient et apparaît la classe sociale des rentiers, qui est une classe sociale qui n'a rien à faire. C'est les gens qui gagnent de l'argent sans avoir à travailler. Et ces rentiers-là, en fait, doivent conquérir leur légitimité dans l'espace public. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont dans la rue, mais qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas un but, ils ne sont pas en train d'aller quelque part. Et on les voit. Et les autres, qui eux ont leur légitimité dans l'espace, parce qu'eux travaillent, ont une motivation, les jugent. Et il faut travailler sur cette position critique de celui qui n'a rien à faire dans la rue. Apparaît dans les années 1830-1840, en même temps que les Mystères de Paris, en même temps que les grands feuilletons. Ce qu'on appelle les physiologies du flâneur, qui sont des guides de bonne conduite à l'usage des gens qui n'ont rien à faire dans la rue. Et c'est passionnant, c'est-à-dire on explique est-ce qu'on doit saluer tout le monde ou pas? Est-ce que quand il y a un attroupement de curieux, nous sommes légitimes à nous mettre au milieu, devant, derrière? Comment tenir ses mains? Est-ce qu'il faut mettre ses mains derrière soi? Est-ce qu'il faut mettre ses mains devant soi? Est-ce qu'il faut mettre ses mains sur les côtés? Est-ce qu'une canne, c'est judicieux ou non? Quand est-ce qu'on enlève son chapeau? Et on invente la possibilité de flâner dans la rue. En même temps, apparaissent les grands feuilletons. Donc, c'est dans les premiers journaux là, réguliers. Puis nous, on vit là-dessus, quoi, hein, sur l'héritage des séries. Et un des premiers feuilletons, c'est les Mystères de Paris. Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, c'est l'histoire d'un bourgeois. Donc, il y a tout le code de la vie bourgeoise. Il est enfermé dans le code de la vie bourgeoise. Et il s'ennuie, évidemment. Et il trouve la solution à l'ennui qui est de se déguiser en gueux, de se déguiser en homme pauvre. Il a des gardes du corps pour éviter les mauvais coups. Et il va dans les endroits où sont les prostituées, les bandits, les cafés, la vie nocturne. Et enfin, sa vie prend de l'intérêt. Et ça, c'est vraiment le code génétique de, par exemple, maintenant, l'explosion des séries télé. Hein, c'est toujours ça. Ou le Dry Groschen Opera, c'est ça aussi. Hein, c'est cette histoire-là. Du bourgeois qui s'ennuie, qui va descendre dans la rue pour partager la vie du peuple. Et moi, je vois ça comme un moment poétique. Voilà. Et c'est l'ouverture d'une espèce d'âge d'or qui est la deuxième moitié du 19e, où on va avoir la flânerie baudelairienne, la promenade sur les grands boulevards. La marche va être plus qu'une pratique artistique, va être une obligation poétique. Et c'est l'apparition de la peinture dans des petits tubes qui fait qu'on peut sortir de l'atelier pour pouvoir faire de la peinture. Et on va aller peindre sur le motif dans la rue. C'est les premiers grands paysages de ville avec impression de pluie tombée sur le pavé par les impressionnistes. Donc là, la rue et sortir dans la rue, c'est une obligation poétique. Et on vit ça avec notre petite histoire marseillaise à travers les excursionnistes, qui sont une espèce de proto-association qui est de ce moment-là, qui apparaît de la fin de ce moment-là. Ça s'appelle les buveurs d'air, c'est assez beau. Et tout de suite, dès leur apparition, on va passer au XXe siècle avec le choc des guerres mondiales et du progrès technologique. Et cette idée de se promener dans la ville va ne plus être évidente. Et la promenade, à travers les fédérations de randonnée, par exemple, va devenir un sport. C'est ce sport incroyablement ambigu, c'est ce sport sans compétition, c'est ce sport sans effort. Mais on l'a rangé dans la catégorie du sport. Et son but va être anti-urbain. Son but va être le grand paysage naturel. Et ce grand paysage naturel, c'est l'apparition de l'industrie du tourisme. Ça va consister on l'a tous connu, c'est-à-dire ça va consister à aller voir ce qui n'a pas été déformé pour le déformer. Hein, c'est les stations de ski, les stations balnéaires, l'industrie du tourisme, etc. Donc c'est tuer ça. Et finalement, nous, on arrive à la fin du XXe siècle, notre génération, devant ce paradoxe qui est que d'aller se promener, c'est pas évident, on n'arrive plus exactement à reprendre la main dessus. Et au contraire, dès fin du XXe siècle, c'est à partir de la fin des années 60, hein, où l'idée de la marche va revenir à travers l'avant-garde esthétique. Hein, donc, qu'est-ce que la notion d'avant-garde? Surtout, le point de vue français sur l'avant-garde est très très drôle, parce qu'on investit dans l'avant-garde, on crée artificiellement des avant-gardes. Pourquoi? Et ça va être le rôle des situationnistes qui vont alors marquer l'histoire de l'art à travers les historiens de l'art, mais on peine encore à savoir ce qu'ils voulaient dire.